L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère. On ne fait pas toujours ou on n'a pas toujours le choix du métier qu'on voudrait exercer. Et quand on doit travailler parce qu'il faut bien payer les factures et remplir le frigo, on tente notre chance dans des secteurs qui ne nous sont pas vraiment destinés et qui sont parfois radicalement différents en espérant quand même y trouver notre compte. Un petit peu, quelque part. Et c'est le cas de Violaine Picot, l'une de nos nombreuses bénévoles ici à Radio Évasion, qui a tenté ce que l'on appelle les métiers invisibles. Pour certains, ce sont de véritables vocations, mais pour la plupart, ce sont des métiers ingrats pour lesquels personne ne veut travailler. Violaine est entrée dans le milieu difficile de l'aide à la personne entre la fin du mois de février et le début du mois de mars 2022. C'est par un temps pluvieux, frais et venteux que Véronique, Léna, Malo et moi-même l'avons retrouvée pour qu'elle nous fasse part de son expérience autour d'une tasse de chocolat chaud dans un bar de la presqu'île de Crozon.
Tu vas nous expliquer comment est-ce que tu es devenue un jour aide à domicile.
Eh ben complètement par hasard. C'est vrai qu'on est ici sur un territoire, on est en presqu'île de Crozon, et trouver un travail alimentaire, c'est pas forcément simple en dehors de la saison touristique, donc l'été. Et donc j'avais pas beaucoup le choix. C'est un moment où j'avais posté des CV un petit peu à droite à gauche. Il y avait Leclerc, qui est le gros Leclerc du coin, qui m'avait répondu, et donc cette aide à la personne, cet organisme d'aide à la personne là. Et je me retrouvais plus dans le côté aide à la personne, même si je connaissais pas du tout, je savais pas du tout à quoi m'attendre.
C'était quoi ton profil de formation ?
Ah, c'était rien à voir du tout. Moi, je venais du monde plutôt artistique. Enfin, je faisais du stop motion avant en animation, donc a priori rien à voir du tout avec l'aide à la personne.
Et alors, t'as pas choisi Leclerc, t'as choisi l'aide à domicile, pourquoi ?
Parce que Leclerc, c'était le rayon charcuterie qui m'avait appelé, et vu comme je suis maladroite, je me suis dit que passer toute la journée avec des couteaux, c'était pas une bonne idée.
Mais là, c'est passer des journées avec des personnes, alors bon, qu'est-ce que tu t'es dit quand même ?
Bah, au début, ça m'a pas mal effrayée, parce que on pense tout de suite au côté hyper intime. On pense au côté toilette, en fait, quand on n'a pas une très bonne idée de ce à quoi s'attendre. Bon, j'avais vu le film de Ruffin qui était sorti sur... Il n'y a pas très très longtemps, il y a François Ruffin qui avait sorti un film sur justement cet univers des femmes de ménage, de l'aide à la personne, etc. Et du coup, j'avais un petit peu ça en tête, donc je me faisais quand même une idée de... du cheminement d'une personne à une autre en voiture, à la suite, dans une journée, mais j'avais pas trop d'idée de l'étendue des missions qu'on pouvait avoir.
Alors, comment ça a commencé ?
Et bah ça a commencé, on m'a fait en gros suivre une personne qui était déjà en contrat et que j'allais remplacer parce qu'elle s'en allait pour faire autre chose, et du coup je l'ai suivi une matinée dans son parcours d'une personne à l'autre, etc.
Alors ouais, qu'est-ce qu'elle faisait ?
Et bah du coup c'était des missions un petit peu, c'est presque on pourrait dire on aligne des mots-clés, c'est-à-dire c'est des choses très précises, c'est on refait le lit si c'est le matin, il y a presque des missions en fonction des horaires. C'est-à-dire que si on arrive en premier pour le petit déjeuner, bah c'est le petit déjeuner, refaire le lit, aérer. Et puis plus tard dans la matinée, ça va être plutôt un petit peu de ménage, des courses. Et puis fin de matinée, ça va être préparation du repas et ménage. Le début d'après-midi, c'est plutôt ménage tout court. Et donc la fin d'après-midi et début de soirée, c'est préparation du repas et un petit coup de ménage. Donc il y a vraiment les horaires qui définissent la mission aussi.
Et à chaque fois, elle reste combien de temps, l'aide à domicile ?
Eh ben, c'est des créneaux très variables, justement, en fonction de ces missions-là. Les créneaux, on va dire, repas et de début et fin de journée sont des créneaux courts, c'est une demi-heure. Et le cœur des créneaux, un petit peu plus polyvalent, entre ménage plus une autre mission, ça peut être des courses ou ça peut être une préparation de repas, là, on est plutôt sur une heure. Et après, des créneaux ménage seul, on est entre une heure et demie et deux heures.
Et le profil, alors, enfin, il y a combien déjà de personnes qui sont visitées dans une journée type ? Et puis, quel était le profil, là, en l'occurrence ?
Eh ben, ça va dépendre beaucoup. Alors, en plus, ce que je peux dire, c'est que on le sait, c'est des métiers qui attirent assez peu de monde. Donc, il y a un très, très fort turnover de personnes. Et c'est ce qui fait qu'on a régulièrement des remplacements à faire. C'est-à-dire que même sur une journée où moi, j'avais, on va dire, en moyenne, 8 ou 9 personnes par jour... Et donc, à des créneaux comme ça de temps différents. Parfois, c'est une demi-heure, parfois, c'était une heure, et certaines fois, c'était plusieurs fois la même personne dans la journée, pour des missions différentes.
Ouais, et c'est quoi alors les profils ? Ouais, c'est quel type de personnes qu'on vient aider ?
Eh ben, les profils sont assez variés, en fait. On pourrait dire que c'est principalement des personnes âgées, mais pas que. J'ai eu l'occasion de voir aussi parfois des familles qui étaient en difficulté et qui avaient besoin d'un coup de main sur une période plutôt courte, par exemple pour du ménage, quand on se sent un petit peu dépassé, débordé, quand il y a un accident de la vie sur une période ou des choses comme ça. Et on va dire le cœur du public qu'on a, c'est vraiment des personnes âgées, bah, du coup dépendantes forcément, qui ont besoin de nous parce qu'elles peuvent plus manger toutes seules, ou parce qu'elles sont trop âgées pour des gestes quotidiens comme le ménage notamment, ou pour parfois aussi faire un petit peu de sécurité et vérifier que tout va bien.
Oui, par exemple.
Et bah parfois, notre passage, il est surtout là pour vérifier qu'il n'y a pas de souci, que la personne va bien, qu'elle n'a pas fait un malaise, qu'elle n'a pas eu un souci de santé. Enfin, on sent qu'il y a aussi ça, une espèce de veille, hein, parce que c'est des gens qui peuvent être isolés avec des familles qui sont très très loin de la presqu'île.
Et il n'y avait pas des gens, par exemple, où vous deviez laver, enfin des toilettes, la fameuse toilette, ça c'est réservé aux aides-soignants, enfin, comment ça se passe ?
Et ben, ce que j'ai découvert, je le savais pas au départ. Pendant l'entretien d'embauche, on vous pose la question de un petit peu quelles sont les limites de ce qu'on veut faire ou pas. Moi, c'était vraiment un point que je sentais pas du tout et je l'ai dit dès le départ. Parce que je trouve qu'on est déjà dans des univers d'intimité très forts. On est chez les gens, on est au milieu de leurs photos de famille, des objets qu'ils aiment bien, de les voir dans un moment où ils sont pas forcément à leur avantage aussi. Et du coup, ça, c'était trop pour moi, je le savais depuis le début. Par contre, dans les collègues, il y a certaines personnes qui ont des diplômes en arrivant qui sont au-dessus de d'autres. Donc c'est un petit peu le diplôme que vous avez de départ qui conditionne l'étendue des missions. Il y a certaines collègues qui font de la toilette et d'autres pas du tout. Donc ça dépend vraiment des gens.
Mais toi, voilà, t'as pas eu à en faire, quoi.
Non, moi, j'ai pas eu à en faire.
Et est-ce que ça pouvait être éventuellement, ça paraît presque du luxe, mais aide administrative ou carrément conversation ou promenade, enfin quelque chose de l'ordre du loisir?
Eh ben, c'est pas les cas les plus répandus, mais oui, il y avait ça aussi. Des personnes qui nous appellent des fois pour aller sortir dehors, c'est les emmener quelque part pour faire une balade, c'est parfois aussi juste promener le chien. Ça peut être des petites choses comme ça. Oui, ça arrive. Il y a une personne cet été que j'ai vue simplement pour jouer aux cartes. C'est des possibilités aussi, ouais.
Combien de temps, quel créneau on a ?
Ah bah c'est variable. Comme il y a un temps de transport et le temps de profiter sur place, c'est des créneaux qui peuvent être, une heure et demie, deux heures, un truc comme ça.
Quand on arrive sur une mission, par exemple le ménage, est-ce qu'on s'interdit de discuter avec la personne ? Enfin, comment ça se passe en termes de relationnel ? On est juste là à épousseter, passer l'aspirateur ?
Bah ça, c'est tout le côté délicat qui est pas évident et qu'on sent. En fonction des gens. Il y a des gens, on reste des humains, il y a des gens avec qui vous allez avoir un contact facile. Et à ce moment-là, on sent que bah, plus facilement, ils proposent un temps d'échange. Et il y a des gens avec qui c'est assez froid, entre guillemets, et ils voient vraiment notre rôle. En fait, on pourrait dire, il y a ceux qui nous voient dans un rôle et il y a ceux qui nous voient comme une personne. Et c'est pas du tout les mêmes personnes potentiellement.
Ouais, il y a des gens pour qui tu étais Violaine et d'autres pour qui tu étais la femme de ménage, quoi.
C'est exactement ça.
Est-ce qu'il y avait des missions vraiment précises ? C'est-à-dire que quand tu vas faire du ménage chez quelqu'un, est-ce que tu devais passer l'aspirateur, faire du repassage, et puis après c'était terminé, ou tu faisais un petit peu ce que tu voulais ?
Ah, c'est un petit peu les deux en général. C'est-à-dire que en avançant au fur et à mesure du temps, on a des espèces de points de repère qu'on regarde systématiquement. C'est-à-dire, est-ce que le lit est fait ? Est-ce que comment sont les sols ? Est-ce que l'état des sanitaires est OK ? Et en fait, c'est des points un peu névralgiques qu'on va contrôler à chaque passage. Et donc, même si la personne nous les demande pas, on va vérifier que c'est OK. Par contre, la plupart du temps, on nous dit bien, il faut d'abord demander à la personne ce qu'elle veut. Parce qu'en fait, il y a ce truc assez marrant, c'est qu'on a tous... Enfin, la vision de l'hygiène, c'est un truc hyper subjectif. J'ai été confrontée à des gens où on se dit, sur une ligne et un curseur qu'on balade, je vais être plus ou moins exigeante qu'eux au niveau de l'hygiène. Il y a des gens pour qui, chez qui je me disais, là, c'est sale, il faut faire un truc, mais qui, eux, trouvaient ça encore valable. Et il y a d'autres personnes chez qui j'ai été assez surprise de voir qu'il y a un certain truc qui leur posait vraiment problème et qui, moi, m'affolait pas du tout.
Tu dois sûrement avoir affaire à la famille de la personne que tu aides. Et si jamais à eux ça ne leur convient pas, comment ça se passe ?
Eh ben ça, je dirais, ça va dépendre de plusieurs choses. Souvent, si la famille est loin, comme on est nombreux, en fait, c'est c'est pas très souvent qu'une personne a quelqu'un d'attitré. Ces temps-ci, ils ont beaucoup fait pour que ce soit vraiment des équipes qui tournent et qui se relayent chez une personne. Donc, si la famille est loin, elle va pas forcément savoir qui est responsable de quelque chose qui est moins bien fait. Par contre, si la personne se plaint auprès du bureau en disant qu'elle refuse qu'une personne passe chez elle, le bureau retire la personne. C'est quand même c'est le seul pouvoir qu'ils ont, et tant mieux qu'il l'ait. C'est que nous, on passe chez eux, mais c'est un peu nos patrons quand même, d'une certaine façon, parce qu'ils peuvent... entre guillemets, nous virer de chez eux.
Moi, je me demandais, est-ce que c'est les personnes que vous accompagnez qui demandent à être accompagnées, ou par exemple, c'est la famille ou des choses comme ça ?
Eh bien, ça dépend des situations. Il y a des personnes qui sont déjà dépendantes, et donc ça peut être des services sociaux, ça peut être des infirmiers, des médecins qui, en gros, déclenchent les services. Pour d'autres, c'est la famille, effectivement, qui va dire que là, maintenant, ça suffit, il faut qu'il y ait du passage chez eux. Je pense que le point de départ, il vient de plein de directions différentes. Finalement, les gens eux-mêmes ont parfois un peu du mal à dire que ça y est, ils ont besoin d'aide. On est souvent confronté à ça, à des gens qui la refusent au départ, en fait, l'aide. C'est assez compliqué d'accepter ça, qu'on perd en autonomie. La perte d'autonomie est hyper douloureuse pour la plupart. Et du coup, on sent qu'ils ont du mal à accepter qu'ils ont besoin d'aide.
Et justement, tu as été confronté à des gens qui, pour la première fois, recevaient une aide à domicile, ou... Et ça s'est passé comment ?
Eh ben, je me souviens de deux personnes, et typiquement, c'était un refus, c'était du rejet, c'était non, mais j'ai pas besoin, et puis ça s'est vraiment fini comme ça. C'est des personnes qui se sont dit non, mais j'ai pas encore besoin, je peux encore me débrouiller, on verra plus tard, et donc ils arrêtent de faire appel à la... Mais c'était pas dans des cas extrêmes de dépendance non plus.
Ouais, t'as pas été confronté à des cas extrêmes de dépendance, justement, où il y avait un chantier énorme à mettre en place, enfin.
Bah, si, c'était pas au début, en tout cas. Les cas de dépendance extrême, c'est des gens où déjà quelque chose était mis en place depuis quelque temps.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter, enfin pas nous raconter, ou nous faire une liste des bons moments, enfin de ce que t'aimais bien quand même dans ce boulot, même si tu l'as arrêté?
Et bah, au début, on se sent hyper utile, mais comme je m'étais jamais sentie avant, c'est-à-dire que dans les mondes plutôt de l'art, etc., on a toujours l'impression des fois d'être dans une petite bulle, un peu à l'abri du monde, et là, le monde, on se le prend, mais dans la gueule comme il faut, quoi. Donc, je pense que pour la première fois, je me suis vraiment sentie utile au départ. Après, c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai remis en question au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que cette utilité que je sentais au début, elle est complètement partie sur la fin quand j'ai pris du recul, en me disant, mais finalement, je vois des gens qui me disent qu'ils s'ennuient, qui me disent qu'ils ont besoin d'être nourris, de vivre des choses, et moi, ce que je viens, c'est m'occuper du corps. Enfin, il y avait une espèce de mot du corps et mot de l'âme qui était pas du tout mis, la souffrance mentale des gens était pas du tout prise en compte, à mon sens. Et du coup, à cause de ça, j'ai complètement remis en question ce truc de l'utilité. Je me suis dit, mais finalement, l'utilité que j'aimerais leur apporter, elle est pas placée au bon endroit. Parce que nous, on vient pour, entre guillemets, les maux du corps. C'est-à-dire faire en sorte d'évoluer dans un espace sain et d'être en bonne santé.
Tu pouvais pas le faire. Tu devais rester sur le bien-être de la personne. Tu devais pas s'occuper de son âme, en fait.
Bah, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, t'es pris dans un rythme qui est assez rapide, et tu viens... En fait, on a des cahiers de transmission entre collègues, donc t'as un cahier où tu notes, comme je disais tout à l'heure, un peu par système de mots-clés, les missions que t'as faites, et qui seront du coup pas à faire par tes collègues par la suite. Donc si tu venais, tu mets bien, t'as fait les courses, t'as refait le lit, t'as préparé le repas, etc. Et comme les créneaux sont déjà courts pour ces missions-là, te dire que tu vas en plus pouvoir déclencher la discussion avec la personne, c'est pas toujours évident.
Et ça te frustrait ?
Il y a des moments, oui. Il y a des moments, oui, clairement, t'es dans la frustration parce que tu te dis que, toi, tu vois plus tellement le sens de ce que t'as fait. Je devais donner un exemple. Je me souviens d'une dame chez qui je passais. Moi, je passais pour le créneau du matin, c'est-à-dire pour le créneau rapide de je retape le lit, je vérifie les sanitaires et je prépare le petit-déj si elle l'a pas fait. Et typiquement, quand je relisais le cahier de transmission où on note les missions que chacun fait et les créneaux horaires, je me disais, le sol a été fait 3 fois cette semaine. C'est absurde. Par contre, le temps de parler, je sentais que j'étais pas la bonne personne pour elle, parce qu'il y a ça aussi. Avec moi, elle se livrait pas. Donc elle m'avait pas choisi quelque part pour ce temps-là de partage, partage d'âme, etc. Donc ça me frustrait parce que je me disais que c'était ça dont elle avait besoin. Mais en même temps, j'étais pas la bonne personne. Et mon créneau de temps, fallait bien que je l'occupe, et donc à faire des choses qui avaient déjà été faites potentiellement 3 fois. Donc il y a des choses qui, à mon sens, fonctionnaient pas très bien à cause de ça.
tu parles plusieurs fois de refaire le lit, là. Est-ce que c'est si important que ça? Ça me paraît bizarre, moi. C'est plus important de vérifier qu'il y a quelque chose dans le frigo ou que le frigo est propre, non?
Bah ouais, mais on sent que ça, en fait, cette génération-là de personnes âgées, c'est important pour elles d'avoir un lit qui est fait.
Ah oui, c'est ça. Donc, c'est des demandes quand même. Est-ce qu'il y a des demandes différentes selon les âges des personnes, alors?
Bah oui, un petit peu. Enfin, disons qu'il y a eu comme une sorte de... Je crois que c'est, on maintient un peu les apparences de normalité aussi du quotidien. On est là, on est des organisateurs de quotidien. Et quelque part, un lit fait, c'est une norme. Donc je pense que tous, individuellement, si on leur posait vraiment la question, il y en a qui s'en fichent complètement, il y en a qui veulent pas qu'on y touche, par exemple. Mais dans la plupart des cas, c'est une norme établie que c'est un truc à faire.
D'accord, mais c'était pas dans les... Ouais. Parce que en fait, vous, quand on vous forme, quand on vous embauche dans ces entreprises-là, on vous dit pas, bah tiens, il faut absolument... Enfin, sur les questions d'hygiène, le plus important, c'est que le frigo soit à peu près propre ou... Non, on vous dit pas ça.
Si, 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 il y avait même des fiches qui nous sont transmises post des réunions d'équipe ou des choses comme ça. Enfin, réunion d'équipe, j'en ai eu fait qu'une, pour ma part. C'est quelque chose que je leur ai dit en partant, c'est que j'aurais aimé vraiment qu'il y ait plus de réunions d'équipe opérationnelle, qu'on puisse reparler entre nous du terrain et gérer des organisations un peu au long cours, parce qu'on peut très bien appeler ses collègues quand on est sur le terrain, mais à chaque fois c'est au détriment du temps sur place, et les autres sont aussi en mission au même moment chez d'autres personnes, donc c'est délicat aussi pour le secret professionnel.
Tu parles de formation, mais est-ce que tu as été aussi formée à gérer par exemple la colère d'une personne que tu visites ?
Eh bah, pas vraiment. En tout cas, j'ai pas cette sensation-là. En fait, on prend des bribes, un petit peu des conseils en questionnant des collègues, en questionnant la personne qui est notre chargée de secteur, avec laquelle j'avais beaucoup d'interactions finalement, parce qu'on retransmet les informations du terrain pour qu'au-dessus, ils puissent éventuellement prendre le relais s'il y a quelque chose de problématique. Mais non, sur des choses comme ça, on me disait bien, bah oui, il faut essayer de calmer le jeu, de pas rentrer dans la colère entre guillemets, mais j'ai toujours trouvé ça un petit peu léger, en tout cas le bagage avec lequel on va sur le terrain.
Que tu sois formé pour le ménage, pour des choses, on va dire faciles, physiques, ça va, mais pour gérer quelqu'un, c'est bizarre que tu sois pas formé. Est-ce que c'est quelque chose toi qui t'a poussé justement à quitter ce milieu?
C'est pas évident comme question.
Est-ce que le fait de pas avoir eu de formation psychologique, c'est ça que tu voulais dire, quoi?
Ouais. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ça coïncidait avec un moment où j'avais des discussions avec un copain à distance qui est psychologue. Donc, je lui avais demandé des billes un petit peu là-dessus. Et on avait beaucoup parlé du transfert, parce que ce qu'il m'expliquait, c'est que finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que on est un petit peu ça, on est le relais d'une certaine place, mais qui est pas la même. Dès qu'on arrive chez quelqu'un, on n'a pas du tout la même place quelque part par rapport à elle. Il y a ceux qui nous mettent un peu dans la peau du petit-fils ou de la petite-fille, il y a ceux qui nous mettent dans la peau de l'épouse disparue éventuellement, qui prenait en charge exactement ce qu'on va faire. Il y a ceux qui nous placent dans la peau de quelqu'un de leur famille. Il y a ceux qui nous placent dans la peau justement que de la femme de ménage et pas autre chose. Il y a ceux qui nous placent dans la peau de la confidente. Enfin, en fait, il y a une espèce de variation des casquettes qui est immense et qui dépend de l'humain et qui dépend de l'interaction vraiment personnelle, en fait, que t'as avec la personne. C'est vraiment quelque chose qui va, je pense, se modifier avec chaque personne. Chaque duo, en fait, recompose une place différente.
Pourquoi est-ce que t'es partie, alors? Il y a d'autres, tu nous as déjà donné quelques raisons, mais il y en a sans doute d'autres.
Je crois que je suis partie parce qu'il y a eu un moment où j'ai été débordée complètement par ce que je vivais. J'arrivais plus à mettre cette espèce de carapace de distance où on l'associe plus à notre vie à nous.
C'est là où je voulais en venir.
Ah bah voilà. Et ça a été un moment assez dur où en fait on se sent complètement submergé, où j'arrivais plus à évacuer le trop-plein d'émotions parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui comptent sur nous quelque part. Il y a ce truc de la barrière des week-ends qui est intéressante. Je me souviens d'une dame. Et alors là, les caractères rentrent en jeu. Il y a ceux qui, je pense, de toute leur vie ont très bien géré la solitude, et il y a ceux qui étaient habitués à être très entourés. Les gens habitués à être très entourés, bah, la barrière des week-ends, elle est extrêmement compliquée parce que nous, on passe pas chez eux.
Il y a personne qui vient le week-end?
Et bah, s'ils sont pas dépendants au niveau des repas, non. Et du coup, pour ces gens-là, il y en a certains qui clairement essayaient de nous faire revenir et donc nous mettaient souvent dans des positions où le flou entre l'amitié, le côté confident était vraiment là. Il n'y avait pas vraiment cette barrière où on essaye de paraître comme quelqu'un de professionnel. Et eux essayent de mettre de l'intime là-dedans beaucoup parce qu'ils aimeraient bien qu'on passe les voir les week-ends. Ils aimeraient bien qu'il n'y ait pas cette espèce de frontière, sans mauvais jeu de mots, de relation tarifée, quoi.
C'est ça, il faudrait que tu deviennes une amie ou la petite fille de substitution, quoi, en fait.
Oui, c'est exactement ça. Il voudrait qu'on soit un membre de la famille, un relais de la famille, pour venir les voir aussi sur des temps plus libres. Et donc casser cette espèce de temps qui est un temps donné. Parce qu'en plus, on a des téléphones comme équipement professionnel. Et on a un système de bip, en fait. C'est-à-dire qu'on bip, on pointe en arrivant et on pointe en partant. Via le téléphone. Donc les temps sont vraiment très très définis et comme on est calculé aussi sur le temps de trajet, tout est extrêmement minuté, quoi.
Oui, c'est ça aussi, c'est une raison pour laquelle peut-être t'es parti. Enfin, d'autres raisons encore ?
Bah après, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est cette idée de pas me sentir utile au bon endroit, c'est-à-dire de pas être du côté... Enfin, de mon point de vue, en tout cas, venant de la culture et d'essayer de transmettre de l'imaginaire, bah là, ça me manquait terriblement, en fait, cette espèce de lien à plutôt émerveiller, entre guillemets, et pas être de ce côté-là, quoi. D'être vraiment dans le côté organisationnel de la vie, ça ne m'a plus suffi à un moment.
Ouais, tu ne pouvais pas leur faire des ateliers d'artistes ou des choses comme ça, quoi, en fait, ouais. Et d'autres de tes collègues que tu connais qui sont partis, c'est à peu près les mêmes raisons ou pas forcément
Ben en fait, la difficulté, c'est de pas en avoir croisé beaucoup, parce que déjà qu'on se croise pas dans le travail, mais croiser ceux qui sont partis, c'est mission impossible.
Tu peux même pas partager tes problèmes ou tes expériences avec tes collègues, alors ?
Non.
Donc c'est très cloisonné ?
C'est extrêmement cloisonné, ouais. C'est-à-dire que les collègues que j'ai croisés, c'était dans des temps informels, mais c'était des temps amicaux, et finalement, on se retrouve à parfois discuter un petit peu, à déborder un petit peu... De problématiques professionnelles, parce qu'on n'a pas l'espace pour le faire.
Oui, parce que tu disais tout à l'heure en plus qu'au sein même de l'entreprise d'aide à domicile, il n'y avait pas vraiment d'échange entre vous ou même avec l'encadrement.
Ben en fait, on a eu des discussions très verticales avec l'équipe de gestion, mais qui parlent de l'entreprise au sens large. C'est pas du tout des réunions, on pourrait dire, d'équipe, au sens où on a un problème avec telle personne, on a tel truc à régler avec telle autre, et donc comment on fait ? Ces réunions-là, vraiment opérationnelles, on n'en a pas. Ce qu'on m'a opposé, c'est que depuis le Covid, c'était très compliqué à organiser. Et je ne suis pas du tout satisfaite de cet argument-là. Je pense que c'est une erreur de ne pas en faire.
On ne peut pas parler du fait qu'au début, tu avais des missions entre guillemets faciles. Et après, plus ça allait, plus c'était compliqué.
Merci. Oui. Alors oui, c'était intéressant, c'est-à-dire que ça a été je l'ai compris en discutant avec d'autres collègues qui me disaient qu'ils procédaient comme ça, c'est que n'étant pas formés pour ce travail et ayant un turnover de dingue, ils essayent de pas vous faire fuir tout de suite, donc ils vous mettent pas les cas les plus compliqués tout de suite. Donc c'est vrai qu'au départ, j'ai eu des cas plutôt faciles. De gens chez qui étaient bonnes pattes, qui étaient avenants, chez qui c'était des missions simples, qui étaient pas trop dépendants. Simplement du ménage, quelques courses, mais des gens avec qui il y a une vraie interaction, parce qu'après j'ai eu à m'occuper parfois de gens qui ont fait un AVC et qui ont perdu le langage, qui sont en fauteuil roulant et des choses comme ça, en fait, ou qui vont parler très peu, donc il faut deviner un petit peu ce dont ils ont besoin, ou qui sont vraiment je sais pas, dans des... Il y a aussi la misère, on comprend dans la figure, donc qui vont être dans des univers soit très sales, soit très compliqués, soit... Il y a ça aussi qu'on se prend au bout d'un moment. Mais ça, ils vous les mettent pas au tout début pour pas vous faire fuir, quoi.
Tu t'es pas sentie en danger quand même, parfois ?
Non, ça, on m'avait bien prévenu. Par contre, si jamais on se sent en danger, on fait remonter l'information et dans la plupart des cas, ils essayent vraiment de changer la personne, de briser l'interaction, quoi.
Il y avait quand même des aspects pratico-pratiques qui t'ont fait partir.
Le fait que la voiture personnelle aussi devient un outil de travail vraiment très important. Je sais que moi, j'avais une très vieille voiture qui était un Renault Express de 96 en prenant ce travail. Donc, c'est vrai que je faisais à peu près 50 km par jour sur le secteur pour travailler, en fait. Donc, c'est vrai qu'on était rémunérés au niveau kilométrique, même si c'est tombé assez mal dans une période où les prix de l'essence s'étaient envolés et ça avait été à peine aligné. Je crois que c'était un centime de plus par kilomètre à ce moment-là ou un truc comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu problématique. Et la voiture a été un des déclencheurs qui m'a fait partir. C'est que la mienne a brûlé son joint de culasse un soir en rentrant, et je crois que c'était vraiment le petit grain de sable qui a fait simplement que je me suis rendu compte que émotionnellement je tenais plus. C'est vraiment des petits déclencheurs de rien comme ça, mais qui font que quelque chose nous arrête et on se dit que c'est nous qui allons nous arrêter juste après, quoi.
C'était Violaine Picot qui nous offrait son témoignage sur le métier d'aide à la personne. Au micro de Véronique, Léna, Malo et moi-même, cette interview a été enregistrée le 13 décembre 2022, quelque part dans la presqu'île de Crozon.